Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle émission, donc un nouvel Instant Santé, l'Instant Santé numéro 14. Donc toujours en compagnie de Madame Audan.
Bonsoir.
Bonsoir Madame Audan. Avec moi, j'ai Alexandre. Comment tu vas Alexandre ?
Je suis là, on va dire que pour cette fois je remplace.
Bah non, toujours présent.
Oui aussi, mais de base j'étais pas là la première partie.
C'est pas grave. Et bien sûr, avec nous, donc on a Alain G qui a bien participé donc, aux Instants Santé. Donc, comment tu vas, mon ingé ?
Ça va et toi ?
Ça va, tranquille. Du coup, madame, je voulais juste faire un petit résumé de la première émission. Donc la
première partie.
La première partie de l'émission. Donc, c'était l'Instant Santé numéro 13. Donc, vous pouvez aller, bien sûr, l'écouter en podcast.
En popcorn.
Non, mais aujourd'hui, je bégaye, ça va pas le faire. Donc voilà, je vous laisse l'honneur.
Donc, on a commencé à parler de la santé mentale en général. On a fait un petit point sur les différents troubles psychiatriques, la dépression, la schizophrénie, la paranoïa, ce genre de choses. Et je vous avais laissé en suspense avec le complexe du homard. Parce qu'on allait parler des jeunes plus spécifiquement. Ah oui, c'est vrai.
On avait rigolé sur le complexe du homard et tout. J'avais pas sorti une petite blague sur le truc de la politique. Non, c'était comme quoi il y en avait un, il avait posé avec des homards et du coup c'était pas net pour lui.
Non.
Mais c'était autre chose.
Bon, allez, je vais lever ce suspense insoutenable parce que je sens que vous en pouvez plus. Donc, le complexe du homard, c'est Françoise Dolto. Ça vous dit quelque chose ou pas ?
Oui, c'est une collègue à moi. Alors, il y a pas longtemps, on s'est vu. Non, je rigole, je sais pas du tout qui c'est.
C'est une pédiatre psychanalyste française, c'est une des premières à avoir étudié spécifiquement les adolescents. Donc pour vous, ça date peut-être un petit peu, mais voilà, c'est la première qui a mis des mots sur les troubles de l'adolescence. Donc elle a comparé l'adolescent à un homard pendant la mue, donc en fait sans sa carapace. L'adolescent se retrouve confronté à tous les dangers dans l'attente de pouvoir se construire une nouvelle carapace. Donc c'est ce moment un peu entre deux où l'adolescent, il n'est ni enfant ni adulte et il a cette sensation de pas trop savoir quoi faire. Donc on est partagé entre le désir de devenir un adulte, de se faire des propres choix, d'acquérir une certaine autonomie et de se sentir protégé par son entourage compris. On a aussi envie de rester un enfant, de faire des choses d'enfant, d'avoir la protection des parents. Donc tout ça c'est un petit peu un numéro d'équilibriste. L'adolescence, le corps change, on l'avait déjà dit dans d'autres émissions. Il y a de nouveaux désirs qui apparaissent, la manière de voir le monde et les autres évolue, on se fait sa propre opinion. On a un pied dans chaque monde, un pied chez les enfants, un pied chez les adultes. Et on continue à se transformer, à se différencier et on crée notre identité. Donc tout ça, ça se passe de manière plus ou moins violente, avec plus ou moins de facilité. C'est la crise d'ado. Voilà, qui peut être très passagère, qui peut arriver plus tôt, plus tard et qui peut durer plus ou moins longtemps en fonction des personnes. Voilà, notre complexe du homard selon Françoise Dolto. C'est un peu plus clair ?
Bien sûr, on a bien commencé.
Ouais.
Mais moi j'ai une question.
Ouais.
Alors, ça peut partir sur un débat philosophique. Quand on parle de la crise d'ado, on a toujours cette vieille pensée, comment on pourrait dire ça ? Oh là là, j'ai plus le mot.
Une vieille image, un stéréotype.
Oui, voilà, un stéréotype de l'ado à 14-15 ans jusqu'à, allez, on va dire, 17 ans qui va rejeter tout le monde. Et voilà, on dirait que dès qu'il passe ce cap de stage-là, c'est bon, il est en crise d'ado.
Moi, je suis pas d'accord, c'est plutôt plus jeune.
Alors ça dépend, maintenant on parle aussi de pré-ado, je trouve ça c'est un peu facile pour...
Ce sont les pré-ados.
Voilà, pour ça, mais c'est un âge vers 14-15 ans, la plupart des ados ont commencé à avoir un bouleversement hormonal, il y a le collège, l'arrivée du lycée, donc effectivement c'est une période, 14-15 ans, 13 ans peut-être, où on commence un petit peu, alors on a tendance à dire se rebeller, mais c'est un moment où on se construit une identité, et donc on cherche à confronter nos idées avec les autres. Et des fois que les parents, ça passe mieux que d'autres, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a cette image de rébellion vers 14-15 ans, où on envoie balader tout le monde.
Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Donc du coup, on va enchaîner.
Ouais, donc du coup, voilà, comme on se retrouve sans carapace, c'est le moment où certains troubles psychiatriques, psychologiques peuvent s'introduire, notamment chez l'adolescent. La maladie la plus fréquente, c'est la dépression.
C'est considéré comme une maladie.
La dépression est une maladie.
Oui, carrément.
Alors il y a différence là. On peut être en état dépressif sans être en dépression grave. Mais la dépression est une maladie psychiatrique. On l'avait dit la dernière fois.
Pas confondre avec la tristesse, qui qui est juste l'étape
oui,
en dessous.
Il voilà, y a la tristesse, il y a la mélancolie. Y a
c'est du... juste après.
À partir du moment où voilà, la tristesse devient récurrente, qu'on a certaines idées de se faire du mal, des idées de mort, qu'on rentre dans un état dépressif, puis il y a le côté chronique qui entre en jeu aussi. Donc face voilà, à tous ces changements de l'adolescence, on peut se sentir dépassé, perdu, on a peur de grandir, de se construire une vie. Et on, il arrive qu'on a une sensation de malaise qui peut aller donc jusqu'aux pensées suicidaires, parce que la mort du coup est perçue comme la seule solution pour se libérer de la souffrance qu'on ressent. Donc on a envie que tout disparaisse, que tout s'arrête, parce qu'on ne voit pas d'autre issue. C'est pas forcément l'envie de mettre fin à ces jours qui prédomine, c'est plutôt l'envie de faire arrêter la souffrance et les sensations, les moments douloureux, pour éviter les crises d'angoisse. D'accord ? Donc même si l'adolescence, bon, c'est un moment de richesse, d'espoir, c'est aussi un moment qui est, où on est fragile. Et quand on a des mots comme ça, mais il faut savoir en parler.
Alors. Ouais, parce que c'est un peu un sujet tabou, en fait, parce qu'on ne sait pas à qui en parler, comment en ouais. parler, la réaction de la ouais. personne.
Et puis alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'à l'adolescence, bah, si on en parle des fois à ses parents, les parents peuvent peut-être avoir tendance à diminuer, minimiser un petit peu, en disant oui. « bah, c'est normal, t'es ado, tu changes voilà. ». C'est vrai que c'est pour ça qu'il faut avoir des mots, savoir poser des mots et savoir être entendu pour ne pas passer à côté d'une dépression. Alors c'est vrai que souvent, ce n'est pas la dépression, fort heureusement, mais malgré tout, comme on sait que l'adolescence est une période difficile, c'est à ce moment-là qu'il faut être à l'écoute. qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, voilà, donc, il faut en parler. Donc, mais pourquoi en parler ?
C'est pour sortir de cet état d'avancer. Il ouais. faut toujours avancer, il ne faut pas stagner, mais ni même reculer.
Est-ce que quelqu'un de dépressif va aller en parler ?
Qu'est-ce que t'en penses, Flo ?
Pas forcément, parce que...
Ouais, alors effectivement, souvent, les personnes dépressives vont avoir plutôt tendance à se replier, à se renfermer. Par peur de faire de la peine à l'entourage, ou pour ne pas créer des inquiétudes, pour ne pas déranger... toujours cette sensation de ne pas vouloir faire autre, aux autres. Voilà, bah c'est un cercle vicieux. Ouais. Voilà, mais pour la personne qui est dépressive, c'est difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'il va dire, je vais pas le dire comme ça de toute façon. Bah, ils s'inquiéteront pas. Et la personne qui est en face va dire, bah oui, je sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas.
Ouais, un changement dans le comportement.
Parce que,
ou...
voilà, la personne dépressive ne veut pas s'ouvrir. Hein, voilà. Mais bah, ce qu'il faut dire dans ces moments-là, par exemple, c'est quand, pareil, vous avez envie d'un croissant, une baguette de pain, vous allez où ?
Boulangerie.
À la boulangerie. Eh ben, c'est pareil.
Non, moi, je vais chez le mécanicien, ok.
Vous trouvez des pains. Peut-être pas. Quand on a des envies de mourir, des envies de se
des
faire
parpaings.
Mal, il faut aller voir un psy. Voilà, c'est du même niveau. Voilà, faut pas avoir honte d'aller voir quelqu'un parce qu'on n'est pas bien. C'est pas.
C'est
pas grave.
En parlant psy,
ouais.
C'est quoi ? Parce que c'est peut-être une question bête. C'est quoi la différence ? Alors, je sais ce que c'est la différence entre un pédopsychiatre et un psychiatre. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre un psychiatre
et un psychologue ?
Et un psychologue.
Alors, le psychiatre est un médecin. Donc, il a d'abord fait des études de médecine générale, d'accord ? Et qui a fait une spécialité psychiatrie. Le psychiatre, en plus d'écouter, d'orienter, va pouvoir donner des médicaments, faire des prescriptions. Un psychologue a fait des études de psychologie. Il n'a pas fait d'études de médecine. Donc, le psychologue ne pourra pas prescrire de médicaments. Il y a des pathologies qui associent parfois un psychiatre et un psychologue. Donc, il y a deux compétences un petit peu différentes. Le psychologue, voilà, il a fait des études de psychologie, toutes ses études, enfin, il y a plusieurs années d'études, et a une approche différente du psychiatre.
Okay.
C'est la différence la plus importante.
En général,
ça ne veut pas dire qu'un psychiatre ou un psychologue, c'est mieux.
Mais
c'est différent.
En général, le psychiatre a eu plus d'études alors.
Non. Pas forcément.
Parce que il y a quand même
oui, il y a les
des études.
La spécialité, ouais. Mais psychologue, il peut y avoir aussi des spécialités. Voilà. Mais c'est pas une question d'études, parce que le psychiatre, il a fait médecine. Donc, en médecine, on étudie tout le corps humain. Et une spécialité psychiatrique. Le psychologue, lui, il a fait des études que de psychologie. Donc, il a étudié que le cerveau, pardon.
Ça, coronavirus. Ouais, ce que je veux dire, coronavirus, ça va pas le faire, ça. Ça va pas le faire du tout.
Le psychologue n'a lui étudié que les comportements. Donc c'est pas, même s'il y a moins d'années d'études, c'est pas les mêmes études, c'est pas les mêmes approches. Donc il n'y a pas de mieux ou de pas mieux. Ça dépend de ce qu'on a. Et ça dépend de ce qu'on souhaite aussi. Parfois ça passe mieux avec un psychiatre, parfois ça passe mieux avec un psychologue. Donc c'est de toute façon au cas par cas. D'accord ? Pour les adolescents, il y a plusieurs prises en charge possibles au niveau des psychiatres, des psychologues. Il y a la maison des adolescents, il y a les centres médico-psychologiques, donc on appelle les CMP. Dans ces cas-là, la prise en charge est gratuite. Donc c'est parfois un petit peu long au niveau de l'attente. Quand on passe par un médecin traitant qui nous renvoie vers un psychiatre, souvent c'est pris en charge par la sécurité sociale. Les psychologues, par contre, en général, ne sont pas remboursés du tout, sauf si on a une mutuelle qui comprend qu'il y a certaines consultations par an. Voilà. Ensuite, donc ça, bon, la dépression, on avait déjà fait un petit peu le point sur les symptômes. Voilà, on se sent pas bien, on a envie de mourir, on n'a pas sa place. Hop, on va le redire un petit peu rapidement. On se sent souvent déprimé, on le dit comme ça. Voilà, donc c'est la dépression chez les adolescents. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre qui avait comme maladie psychiatrique, vous vous rappelez ?
Non, bah non.
Là.
Si, si. Il y a la schizophrénie, oui. Il y a l'autisme, il y a tout ça, mais.
La schizophrénie à l'adolescence. C'est important d'en parler parce que c'est un âge, souvent, où la schizophrénie est diagnostiquée, ou en tout cas, elle apparaît. Pourquoi ? Parce que y a ce côté déjà un petit peu du complexe du homard où on se construit son identité, donc on est plus fragile. Et la schizophrénie apparaît aussi dans les moments où on se met en danger, où par exemple on consomme des produits illicites. Donc si on a un terrain qui a tendance à aller vers la schizophrénie, au moment de l'adolescence, si en plus on teste ses limites avec des produits psychotropes, ce genre de choses, on va souvent déclencher une schizophrénie. Ce qui permet de poser un diagnostic de schizophrénie, c'est la BDA.
Donc, d'après ce que vous dites, ce que je comprends, c'est qu'on ne naît pas schizophrène, on le devient.
Oui.
Ok.
Alors, on a des terrains. Il y a des familles, il y a des
gènes. Ça dépend, là-bas, Robert, j'ai une petite parcelle.
Il voilà. y a un terrain, t'as pioché dedans, t'as pioché la mauvaise pioche, voilà. Non, on ne naît pas schizophrénique. Il y a des familles où on sait qu'il y a eu des troubles, donc il y a plus de risques.
Ok.
Mais ça peut toucher absolument n'importe qui. Souvent, voilà, on le diagnostique chez les jeunes adultes entre on va dire 18 et 25 ans, 16 ans des fois. Voilà, donc la BDA, donc ce que je dis, c'est la bouffée délirante aiguë. C'est-à-dire que souvent, ça apparaît à un moment où soit le jeune a consommé, la plupart du temps, du cannabis, parfois de l'alcool ou les deux, mais souvent, c'est avec du cannabis. Et il va se mettre à délirer, à avoir des hallucinations auditives et visuelles. Et c'est vraiment très très impressionnant.
C'est une hallucination collective.
Non, c'est individuel. Là.
Ah non, dommage.
Donc voilà, c'est le moment où on entend des fois aux infos, voilà, un jeune qui a pété un câble, qui a pris sa voisine pour un démon et qui l'a assommé. Voilà, c'est vraiment, il y a souvent cet ordre de côté démoniaque, de démon, de se sentir attaqué, persécuté, et où on attaque physiquement les autres. Donc à partir de ce moment-là. C'est l'entrée dans la schizophrénie. Ça arrive plus souvent aux garçons, aux jeunes garçons.
Oh.
Ah, c'est pas de bol.
Oh, zut alors.
Ah,
dû à quelle partie du corps?
Ah, c'est à cause de vos chromosomes, ça, écoute.
Non, après, c'est bon, je démissionne. Hein, je vais devenir une femme. Hein,
la schizophrénie, c'est une.
C'est mental,
donc du coup, c'est
ouais.
Du cerveau.
L'hormone?
Non. C'est aussi parce qu'on est dans une société qui, alors avant c'était les femmes qui étaient hystériques parce qu'on leur interdisait des choses.
Et du coup, il y a des docteurs femmes, voilà. Ils ont dit, chais.
Non, c'est une constatation. Mais c'est surtout aussi, je pense, le poids de la société qui fait que du coup les garçons sont plus touchés à ce niveau-là.
C'est une théorie ?
Non.
C'est une théorie ?
Non.
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 Ouais, c'est... Simple et efficace.
Il faut qu'on le garde, vous
non.
Voilà.
C'est si même. Ça vaut le A de Denis Brognard, je veux bien.
Oui, oui, ça vaut limite. Il y a concurrence là, je trouve qu'il y a concurrence.
Mais on a le droit de dire si c'est une théorie quand même.
C'est complot, Illuminati, tout.
Voilà. Bon, bref. La schizophrénie, c'est une dissociation hein, du cerveau. Il y en a qui disent que c'est plusieurs personnalités. Alors, oui et non.
Non, mais c'est ça, c'est plus ceux complexe qui sont... que ça. Il y a la bipolarité. Et...
Une double personnalité, c'est qui peut être engendré par la schizophrénie. En fait,
il y a pas les gens lunatiques aussi.
Alors, non, ça, c'est différent. Les gens lunatiques, ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est une appréciation des autres aussi. Donc,
Ok, ouais. Il y a aussi un album de Booba qui s'appelle... Désolé.
Non, faut arrêter.
Là, tu vas me perdre.
Désolé.
Voilà. Donc, voilà, la schizophrénie, bon, on a déjà parlé un petit peu la dernière fois, donc j'en dirai pas beaucoup plus. Juste que, voilà, à l'adolescence, c'est le moment critique pour la schizophrénie, donc c'est vraiment le moment. Ou, mais si vous avez envie de tester plein de choses, attention de garder ça en tête, qu'on est plus fragile, et donc de rester raisonnable. Tu peux le mettre avec mon nom, raisonnable.
Oui.
Moi j'ai une question, vous avez dit que la schizophrénie se détecte, on va dire, entre 18 et 25 ans.
Ouais.
Est-ce que c'est arrivé que c'est plus tard ou plus tôt?
Alors, il y a la schizophrénie chez les enfants, assez petits. C'est un cas vraiment particulier.
Ouais, parce que des fois les petits sont un peu bêtes. Hein.
Non mais c'est pas ça. La schizophrénie, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est très clair. Bon, dans certains cas, ils vont jusqu'à 15 ans, de 15 à 30 ans. Mais c'est-à-dire qu'il faut, pour qu'il y ait un diagnostic vraiment de schizophrénie, même si c'est diagnostiqué après, on se rend compte qu'en fait, les signes étaient là avant, qui n'ont pas été pris en compte. Il y a certains éléments qui doivent être apparus entre 15 et 30 ans pour que ce soit de la schizophrénie. S'il y a d'autres troubles après 30 ans, ce n'est pas de la schizophrénie. Ça peut être une paranoïa hallucinative, par exemple. Ça peut être d'autres choses.
Ouais, c'est dérivé de la...
C'est d'autres troubles. Mais la schizophrénie, c'est vraiment... Voilà, s'il y a des conditions particulières. Et un traitement bien suivi pour un schizophrène marche très bien. S'il est bien suivi, si, que ce soit médicament, il faut qu'il ait médicament et un suivi psychiatrique, psychologique, voilà. Et c'est bien pris en charge. Mais vraiment, voilà, la schizophrénie, entre 15 et 30 ans, il y a des signes. Et cette bouffée délirante aiguë et d'autres signes d'hallucination, que ce soit auditive ou visuelle, certaines parfois passent un peu plus inaperçues. Mais voilà, s'il n'y a pas ces signes-là, c'est pas de la schizophrénie.
C'est juste que...
Vas-y, finis, on est toutes oui.
Voilà, ça sera censuré. Merci beaucoup, Axel.
Bon.
Et donc, oui. Dans tous les cas, cette origine est historique, alors.
De quoi ?
Pour dire que c'est juste parce que c'était la société d'avant qui a fait devenu des petits gens psychopathes.
Non, la schizophrénie existe depuis longtemps, mais voilà, si ça touche un peu plus les garçons, c'est parce que notre société est patriarcale.
D'accord, juste pour ça.
Ouais. Enfin, y a des femmes schizophrènes aussi. Hein. Et c'est vrai que maintenant, on remarque que l'écart diminue un petit peu entre les femmes et les garçons. Mais voilà, pour l'instant, il y a encore une petite avance des garçons. Donc...
Ça arrive. Hein ?
Ça arrive.
Il y a d'autres maladies que les femmes ont plus que les hommes. Ouais. Bon, laquelle, je peux pas te dire.
Être enceinte.
Ouais, c'est vrai. Alors c'est là, pas c'est... une maladie, ça.
Non, c'est pas une maladie.
Quand ça grandit, si ça danse bien.
Alors, on va faire un petit point du coup aussi sur les scarifications, parce qu'elles peuvent apparaître dans différents troubles.
Tout d'abord, quelles sont vos sources sur les recherches sur la schizophrénie?
Doctissimo.
J'ai fait des études, donc c'est...
Ah, juste pour ça, d'accord. C'est...
Non, mais alors là, par exemple, tu peux aller sur Fil Santé Jeune, si tu veux avoir des infos.
D'accord.
Tu peux aller sur psychom.org aussi, si tu veux, l'ARS, Santé Publique France, le ministère de la Santé... Tout ce que tu veux.
D'accord.
À partir du moment où c'est agréé.
Je mentionnerai tout ça.
D'accord. Alors, donc, les scarifications.
On oublie Doctissimo.
Oui, on oublie Doctissimo.
On oublie Doctissimo, on oublie les blogs, les forums, tout ça. Vous êtes à la poubelle.
Pourquoi j'ai mal au doigt? C'est normal, c'est le cancer. Non, c'était juste un bleu.
Voilà. Ton chat t'a griffé, tu vas mourir.
Les doigts avec Doctissimo. Moi, j'ai jamais eu le réflexe.
De toute façon, n'allez pas sur internet quand vous avez un problème.
Bah oui, consulte un médecin comme la dépression aussi.
Vive le BTP.
C'est bon.
Alors, on avait déjà parlé un peu de scarification, je sais plus dans quelle émission.
C'était pas dans l'adolescence, ou le mal-être, ou je sais plus.
Non, c'est pas dans la drogue.
Ouais, c'est peut-être ça. Bon, ouais. Ça revient souvent, de toute façon, chez les jeunes. Ça peut être un signe. Ça peut être un symptôme. Enfin, un C'est pareil, madame, je vais vous raconter. Alors,
Un symptôme et un signe. Alors, un signe, ça, c'est pas de naissance. Et un symptôme, genre. Je peux pas dire c'est pas de naissance, mais genre.
Non, c'est pas. Il y a pas de rapport avec la naissance.
Ouais. Un signe, c'est volontaire. Pour montrer qu'on est mal.
Alors, les signes et les symptômes, il y en a dans toutes les maladies, en fait.
Et que symptôme, c'est pas volontaire, mais c'est un peu inconsciemment, en fait.
Est-ce que tu as du réseau ?
J'ai une proposition.
Ouais, vas-y.
Un signe peut être une indication physique ou du comportement, et un symptôme, c'est tout ce qu'il y a comme...
En fait, dans une maladie, un symptôme regroupe un ensemble de signes.
Vas-y.
Donc c'est pour ça que ça peut être...
Non mais c'est n'importe quoi là.
À la fois un signe...
On s'est fait avoir.
Un symptôme grippal.
Ouais, c'est qu'il y a plein de trucs qui nous
t'as
disent
la
que c'est la grippe.
T'as le nez qui coule, t'as des courbatures. Chacun de ces éléments est un signe. Parce qu'arrivement, ça peut être juste un signe ou déjà un symptôme. En fonction du contexte où il se trouve. Donc les scarifications, c'est une mutilation volontaire. On avait déjà dit que c'était une façon d'exprimer physiquement notre souffrance intérieure. Ça permet aussi de montrer qu'on est en vie, de se donner une appartenance, montrer qu'on existe. Et ça prouve évidemment qu'il y a une douleur, une plaie très profonde au niveau du psychique. Et elles sont souvent... je ne sais plus ce que j'allais dire, donc je vais le refaire.
C'était votre intime bafouille.
Tout à fait, tu le couperas. Souvent, suivant l'endroit où on se scarifie, il y a un trouble associé. C'est-à-dire que l'endroit où on se scarifie est souvent significatif de notre trouble. Nous, on le sait, il y a des endroits... où on va se scarifier plus facilement le bras, et quand on a d'autres troubles, on va plutôt se scarifier au niveau des cuisses.
C'est-à-dire voilà.
Par exemple, les jeunes filles qui ont des attouchements sexuels, des incestes, ce genre de choses, vont plutôt se scarifier au niveau des cuisses. Parce que c'est plus proche des parties génitales, et que du coup, elles marquent leur souffrance là où elle est faite, mais de manière invisible, vu que c'est en cachette, okay. Que c'est pas dit. Donc ça indique aussi un petit peu l'endroit de leur souffrance. Par contre, quand on est plutôt dans le mal-être, le repli sur soi, on va plutôt se scarifier les avant-bras, par exemple. C'est très rare qu'on se scarifie le ventre ou en dessous du genou, par exemple. Voilà. La scarification... une fois que les adolescents ont commencé, ont beaucoup de mal à s'arrêter. C'est un peu comme une drogue parce qu'il apporte un moment, au moment où on le fait de... contradictoirement, un moment de réconfort. Parce que ça lève un petit peu ce sentiment d'angoisse, de vide, de détresse. Donc on recommence sans cesse tant qu'on n'a pas comblé, trouvé la solution à notre mal-être. Alors des fois ça fonctionne pas. Des fois ça s'infecte, donc on est obligé d'en parler. Et on souffre plus que ce qu'on aurait voulu.
Après, il y a aussi l'alerte en disant que on n'arrive pas à s'arrêter aussi.
Oui, alors il y a ça, et puis tant qu'on n'est pas bien, on le fera, parce qu'au moment où on le fait, on éprouve une sensation de réconfort parce qu'on voit la souffrance.
On arrive à poser un visuel sur ce qui se passe.
On n'arrive pas à mettre de mots, mais du coup, on y met du physique. Voilà. Donc, c'est ça qui est aussi important dans les jeunes qui se scarifient. Et parfois, ceux qui le font aussi sur les avant-bras, les avant-bras, au bout d'un moment, l'été, on les découvre. Donc ça permet aussi de dire, regardez, je souffre, donc venez m'aider. Voilà, ça fait souvent un appel à l'aide. D'accord ? Donc, on a parlé de pourquoi aller voir le psychiatre, des scarifications, de la schizophrénie, la dépression... donc on va passer à un chapitre alimentation, parce que là on parlait de la schizophrénie qui touche un peu plus les garçons, et il y a un truc qui touche un peu plus les filles, c'est
oublié midi.
C'est
le petit déjeuner.
L'autisme.
Non. Non, je rigole.
Bamboula.
Il y a plus
la
de garçons.
Boulimie, l'anorexie.
L'anorexie, la boulimie. Voilà. Les troubles du comportement alimentaire. Voilà, on a tendance à parler de son poids, de la balance, est-ce qu'on est maigre, est-ce qu'on est grosse, et les autres. Et voilà, donc c'est quelque chose qui occupe beaucoup aussi les jeunes, un peu plus les jeunes filles, en tout cas quand on parle d'anorexie mentale. Parce qu'il y a aussi une anorexie physique qui peut être liée à des pathologies. On peut être anorexique aussi, des garçons aussi peuvent être anorexiques, mais c'est vrai que c'est un peu plus pour les filles. Alors pourquoi ça touche plus les filles?
Parce que ça mange moins le matin.
Non. Ouais, non, c'est parce que... Non, non, mes copines, elles mangent pas, du coup je mange pas, j'aime pas, ouais. C'est pas bon.
Alors pourquoi préférence, avoir attiré les regards...
Tout tort dans ta gueule.
Pour être belle.
Ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que...
Pour plaire aux autres.
Oui, mais pourquoi on est...
Parce qu'on est, parce qu'on est jeune et on est des moutons. On n'a pas nos trucs. On n'est pas... Comment dire? On n'arrive pas à être unique. On aime bien ressembler aux autres. Ouais. On est des gros moutons.
On aime bien avoir du monde autour, être le centre.
Ouais, mais alors pourquoi les filles, elles veulent être maigres?
Vive la tension. Parce que d'une certaine façon, je dirais, c'est pour plaire aux garçons et les stéréotypes de la fifi, nanani, nanana, de la pub, de tout ça, voilà. Mais en fait, pas du tout, pas du tout.
Une fille qui me dit qu'elle est maigre, déjà qu'elle est maigre, qu'elle veut maigrir, je lui dis, tu veux pas quoi, un fémur.
C'est ça.
Mais voilà, c'est parce qu'on est dans le diktat des médias.
Mais aussi, c'est la bourgeoisie.
Les garçons, donc il y avait un peu de schizophrénie parce qu'il y avait la société patriarcale, donc ils avaient ce poids-là, mais les filles, elles ont le poids des médias.
Après, maintenant...
Alors ce poids-là des médias existait toujours aussi avant. Il fallait que les femmes soient un peu plus grosses, un peu plus enrobées, parce que c'était signe de richesse, ouais, qu'elles pouvaient nourrir l'enfant. Donc ce sont des critères de beauté qui sont accolés aux femmes, sans qu'on leur demande leur avis, mais en fonction de la société.
Maintenant,
donc maintenant qu'on est dans une société riche, on prône la maigreur.
On voit toujours des personnes fines, mais on commence à voir des personnes qui ont commencé à avoir un peu de forme.
Alors maintenant, effectivement, ça fait quand même quelques temps que
on a
pointé du doigt tous les défilés de mode avec des mannequins, ouais, qui pesaient 30, ouais, kilos.
Tu souffles et voilà, ça s'envole, quoi.
Voilà.
Fou,
on a pointé du doigt tous les retouches Photoshop sur les magazines où on te vend des filles qui sont physiquement impossibles. On ne peut pas avoir une taille de 60 cm. Ça n'existe pas, sinon il nous manque des côtes.
Alors,
on ne peut pas avoir des jambes d'1m20 quand on fait 1m60 par exemple. Ça n'existe pas non plus.
Je ne sais pas si on peut mettre un film sur ça. Est-ce que vous connaissez... Attendez, j'ai le film. Je sais plus si c'est
Gattaca.
Voilà, normalement ça peut parce que c'est un peu genre on trie le truc.
C'est un peu différent. Moi que je m'embrouille. C'est avec les clones celui-là.
C'est sur les clones, c'est en fait parce que des fois les parents ils choisissent l'enfant comment ils le veulent et comment ils le veulent quand il va être grand.
Non, c'est pas celui-là.
C'est quoi ça?
C'est celui où ils font que des enfants sur sélection, une fécondation in vitro parce qu'ils choisissent les gènes.
Mais je sais plus c'est lequel.
Il est pas mal. Non, c'est pas. Bon, bref, on verra. Voilà, donc j'en reviens du coup à mon anorexie donc, qui est liée aux médias parce qu'on dit qu'il faut un poids idéal, qu'il ne faut pas perdre de vue, qu'il faut faire attention, que si on est trop gros ça va pas le faire, qu'il faut avoir une taille de guêpe, les seins de Barbie, des jambes de gazelle. Pour les garçons, il faut ressembler à Wolverine, avoir des tablettes en chocolat, être aussi fort que Thor.
Moi j'ai 9, j'en ai 9. J'ai 9 abdos,
ça,
je vous le dis. Voilà.
T'as 9 abdos, t'as l'abdo du chocolat
fondu. Non, en fait, je vous explique. Non, il y a les 8. Et en fait, derrière, au devant, il y a le 9e. Ça protège tout.
C'est la petite couche de gras.
Parce que, ouais, voilà, je les aime bien. Ouais,
c'est le chocolat fondu, celui-là.
Mais oui, mais totalement. J'ai un abonnement chez Ferrero qui est.
Mais ça suffit, tout.
Voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'entre hier et aujourd'hui, les représentations ont changé. Avant on aimait les rondeurs, maintenant on préfère plutôt la maigreur.
Ouais, maintenant on a un spaghetti. Ouais.
Même si voilà, on fait quand même un petit peu plus attention à l'image dans les magazines, où on dit que c'est pas retouché, les filles ont pas le droit d'avoir de cellulite, ce genre de choses, alors que bah on n'a pas trop de poids, on en a, c'est pour. La cellulite, elle sert à quoi?
Protéger en fait, c'est si on n'a pas assez mangé ou.
Alors.
C'est un stock, ça peut servir.
C'est un pare-balles.
Ouais, vas-y.
Pour qu'on est enceinte, quoi.
Voilà. Les femmes stockent de la graisse dans les cuisses et dans les hanches pour une future grossesse. C'est comme ça. Donc on n'a pas le choix.
Flo, t'as compris?
Non, je suis pas une femme.
C'est comme ça.
Voilà.
Alors, en plus, ce qui arrive à l'adolescence, c'est que bah, quand on est ado et bah, qu'on devient une femme, bah, forcément on prend des formes, donc on prend du poids. Et parfois, c'est du poids qui arrive un peu plus rapidement que ce qu'on voudrait. Donc pour la jeune fille, c'est beaucoup plus dur à assumer. Un garçon va prendre, comme il grandit, il a un pic de croissance qui est un peu plus tard, il grandit et il prend du poids du muscle un petit peu plus tard que la fille. Donc il y a un décalage à ce niveau-là aussi, où les filles vont prendre de l'avance sur la puberté et du coup vont aussi avoir un décalage à ce niveau-là. Donc on a envie de maigrir quand on a une anorexie mentale. Et on a un trouble de l'image de soi, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas tel qu'on est dans le miroir. On a beau se mesurer, on a beau mesurer l'IMC, un IMC c'est l'indice de masse corporelle, qui nous donne en fait un indice de bonne santé. C'est pas à prendre tel quel, c'est un outil supplémentaire quand on voit quelqu'un qui est ou en surpoids ou à l'inverse trop maigre. Ça nous dit si on est dans la bonne fourchette par rapport à son âge, sa taille et son sexe. Ou un garçon. Voilà, donc les jeunes filles qui souffrent d'anorexie mentale.
Ouais, mais c'est encore basé sur des caractéristiques.
Oui, parce que quand on est une fille ou un garçon.
Ouais, mais du coup, ça nous range encore dans des catégories.
Mais là, c'est physique, on n'a pas le choix.
Ouais, mais non, bah non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça. Je... Octogone sans règle, c'est tout.
Bah là, c'est comme ça. Donc l'IMC. Pour être en bonne santé, en gros, il faut avoir un IMC entre 18 et 25.
Ok. Voilà.
Donc, ça se calcule en fonction de son poids et de sa taille.
C'est comment ?
C'est sur son poids.
Sur Google ?
Divisé par sa taille au carré.
C'est quoi ?
Le poids.
Attendez, je vais le faire maintenant.
Divisé par la taille au carré. En centimètres.
Alors, c'est le poids, donc on va dire. Alors, à peu près, je dois faire.
85.
Bah, vous avez des sites internet tout près, vous rentrez votre poids, votre taille, vous calculez votre IMC, donc, votre âge.
Vous m'avez dit
entre 18 et 25.
Le poids.
Divisé par la taille au carré.
Divisé par.
1m80 à peu près.
Je fais 90.
T'es à peine plus grand que moi, je fais 81.
Non, je fais 80.
Bon,
je te jure, je fais 90.
Donc, bref, je reviens sur mon anorexie mentale pendant que tu calcules ton IMC. L'anorexie mentale touche surtout les jeunes filles entre 12 et 20 ans et elles suivent un régime très strict pour perdre du poids.
Il faut le mettre en centimètres ou.
Oui, non, attends, je sais plus. En mètres.
En mètres, ça va.
Mais sinon, ça va te donner des chiffres improbables.
Ouais, je me disais ça.
Donc, pour perdre du poids, ces jeunes filles sont capables de se mettre des restrictions alimentaires très très importantes.
Ouais, non, ça va pas le faire. Je tombe à 288.
100 centimètres. Et pour pouvoir faire ce régime, elles vont avoir tendance à surinvestir, par exemple, le sport et les études. Donc, c'est des jeunes filles qui vont faire énormément de sport et qui vont investir énormément leurs études pour pouvoir détourner leur attention de l'alimentation. L'anorexie mentale a un rapport au corps donc, qui est problématique, on ne se voit pas tel qu'on est, on pense qu'on est obèse. Et même en se regardant dans le miroir, notre cerveau nous renvoie une image d'obèse. Donc là, il faut faire tout un travail sur le schéma corporel, la visualisation et souvent le toucher. Quand les jeunes filles, du coup, elles sont touchées par des professionnels qui les massent et qui leur montrent en fait qu'elles sentent du coup qu'elles ont que la peau sur les os, elles se rendent effectivement compte que leur schéma corporel était faussé. Il y a des signes associés avec l'anorexie mentale, donc mis à part l'amaigrissement qui est très rapide, très important, il y a une aménorrhée. Oh, j'ai pas de fille.
À vos souhaits.
C'est quoi l'aménorrhée ? Alors qu'est-ce qu'elles ont les filles que les garçons ils ont pas ?
Un vagin.
Ouais.
Et une poitrine.
Juste au-dessus du vagin, il y a
un bide.
Térus. Donc, et l'utérus, il produit quoi ?
Les ovules.
Et après les ovules, qu'est-ce qu'il y a ?
Les règles.
Donc l'aménorrhée, c'est l'absence de règles. Les jeunes filles qui sont anorexiques, du fait de leur perte de poids très importante, ça provoque des troubles hormonaux.
C'est pas le corps qui va se dire en gros, ouais, vas-y, faut pas que tu perdes du sang parce que déjà t'es en sous-effectif en gros.
Entre autres aussi, parce que du coup elle n'est pas capable de mener une grossesse.
Ok,
correct. Hein, donc il y a une absence de règles chez les jeunes filles anorexiques. Voilà. Donc ça, c'est l'anorexie mentale. Qu'est-ce qu'il y a ? L'anorexie, t'avais dit la boulimie.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui différencie la boulimie de l'anorexie ?
C'est quand tu manges trop.
On mange plus que...
Tu te lâches sur la nourriture.
Est-ce que les boulimies sont
grosses ?
Non. Non.
J'en suis. Hein.
Mais après, tu vas se mettre charnuée.
Je mange beaucoup, mais je suis à moins de 50 kilos. Génial.
La boulimie, c'est la survenue incontrôlable d'une absorption très importante d'aliments qui sont bourratifs, caloriques, faciles à ingérer et souvent dans un temps très limité.
C'est bon, ouais, d'accord. Ouais.
Donc, je crois qu'on est boulimique, Flo.
Je suis touché. D'aliments qui sont très riches, très caloriques, faciles à ingérer, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop mâcher. Faut que ça
genre de type chips.
Non, il faut mâcher. Mais là, les chips, non, ça va.
Non,
c'est pas dans la boulimie.
Elle a compote.
Pour ma part, même, ça me dégoûte d'en manger trop après des trucs comme ça.
Et souvent, donc, alors pourquoi il y a ces crises de boulimie ? C'est pour combler aussi une angoisse, un peu comme dans la dépression. Un peu comme le même système d'escarification, on va avoir des crises de boulimie pour combler une angoisse. Et après cette crise de boulimie qui rassure, il y a une très forte hausse de la culpabilité. On se sent coupable d'avoir fait ça, honteuse, et donc on a tendance à se faire vomir.
Et du coup, on retourne dans la... Je viens de parler du mot.
Tout à fait, tout pareil, mais en mieux.
On vient juste de parler là.
Anorexie.
L'anorexie.
Non, mais super,
alors,
tu
parfois,
suis
les deux sont associés. Il y a des anorexies qui sont boulimiques, il y en a qui sont des personnes qui sont juste boulimiques. Donc qui
non, mais c'était bien avant que vous parliez de ça, parce que là, vous m'avez totalement brouillé.
C'est juste que les personnes qui vont manger tout ça, ils vont culpabiliser d'avoir mangé. Du coup, ils vont rater de manger, du coup, ils vont basculer dans l'anorexie.
En fait, alors, ça, c'est un... Non, pas forcément. C'est-à-dire que l'anorexie. Il peut y avoir des crises de la boulimie peut être donc, à la fois une maladie ou un symptôme de l'anorexie aussi. La boulimie peut être pure, donc voilà, avec ces crises d'angoisse, donc on comble un manque, une souffrance par la nourriture, donc on a une crise de boulimie, donc on se goinfre de tout ce qui peut passer, on le cache, on a honte, donc ça ne se sait pas. Et souvent donc on va le vomir parce que on a culpabilisé d'avoir tout mangé. Surtout si on est anorexique et qu'on veut perdre du poids. On va vomir. Parfois, elles ne vomissent pas si il n'y a pas d'idée forcément de perte de poids dessus, derrière. Mais c'est vraiment voilà, cette sensation de remplir, de combler un manque, une angoisse. Et ensuite, la culpabilité qui arrive derrière et qui, du coup, souvent, on se fait vomir. On est souvent irritable aussi. Et ça peut arriver plusieurs fois par jour. Ça peut arriver 10 fois par jour.
Donc, voilà, du coup, on fait 10 repas par jour ?
C'est des crises de boulimie, c'est pas des repas.
Ah mince. J'étais chaud à faire 10 repas par jour, moi.
Non. Donc pareil, la boulimie touche un peu plus les filles que les garçons. Enfin, beaucoup plus les filles que les garçons. Voilà. Et voilà, c'est en cachette et ça s'appelle donc des crises. La fin des crises donc, survient souvent, donc on n'a plus envie de manger. Donc c'est pour ça que c'est très rapide, parce que quand on mange normalement, le cerveau il a le temps de capter l'hormone de satiété et de dire voilà, on arrête de manger. C'est ça qu'il faut mâcher, quand on dit qu'on mange, on doit mâcher. Comme pendant la crise de boulimie, en fait, on ingurgite, on gobe, le cerveau n'a pas le temps de dire il faut arrêter, l'estomac est plein. Et au moment où la crise de boulimie intervient, on a vraiment cette sensation d'écœurement, on ne se sent pas bien parce qu'on a mangé 4 fois trop et que l'estomac, il dit qu'il n'aime pas ça. Il y a toujours, donc pas toujours une crise de poids, justement, comme je l'ai dit, parce que c'est un malaise. En plus, les jeunes filles, donc, si elles vomissent aussi, elles peuvent prendre des médicaments. S'ils n'arrivent pas à se faire vomir, elles peuvent compenser en prenant des laxatifs, par exemple. C'est quoi un laxatif ? Ouais.
Ah, ce rattrapage de dernière minute !
Tout à fait. C'est pour donner la diarrhée, en fait. Et du coup, ça, on n'assimile pas les calories qui ont été ingérées. D'accord ? Ça peut être suivi aussi par des périodes de jeûne pour compenser l'absorption des calories. Ouais, autant vous dire que pour la santé, c'est pas terrible.
J'ai trouvé le truc.
Qu'est-ce qui arrive avec les vomissements répétitions ? Est-ce que ça peut créer quelque chose, par exemple ?
Inflammation des.
Bah, des gens peuvent percer l'œsophage.
Alors, peut-être pas percer l'œsophage, mais ouais, effectivement, ça crée des irritations.
Non, mais si on leur dit, ouais, ça va percer, du coup, elles vont se dire. Ah ! Du coup, ça va être mieux.
C'est très désagréable. Après, il peut y avoir des troubles rénaux du rein.
Ça, c'est encore René, là, qui fait ces trucs.
On n'y pense pas forcément, mais comme il y a des troubles à ce niveau-là, ça crée des carences, et donc ça peut atteindre les reins. Et si après ça, ça devient...
Du coup, le corps ne peut pas...
Il n'a pas tout, ouais. Ça, du coup, ça fait que, ça peut aller jusqu'à une insuffisance rénale. Si ça dure trop longtemps, le rein peut avoir des lésions irréversibles. D'accord. Donc ça aussi, c'est important.
Ça peut en grève de rein. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a aussi avec les vomissements comme problème ? Qui peut se voir un peu plus sur le physique ?
On n'est pas là.
Non, parce que non. Ça passe, donc après l'œsophage, ça passe par où le vomi ?
À la bouche.
Ouais, à la bouche, il y a quoi ?
Il y a aussi la dentition.
Les dents.
C'est pour ça.
Ça crée de énormes problèmes dentaires.
Oui,
avec l'acidité. Donc c'est très compliqué. Donc c'est aussi une des choses qui fait que parfois les personnes arrêtent de se faire vomir. Parce que du coup, avoir des dents pourries, ça se voit. Et comme le principal intérêt, c'est d'avoir un physique... Enfin, un certain physique, un certain but, à ce moment-là, effectivement, il y a une prise de... ou une prise de conscience de la pathologie ou un changement de tactique. Alors...
Un changement de tactique. On va faire un changement de tactique. Franchement, on va alterner avec la petite tactique B, là, hein.
Okay.
Oui, alors... ça va. Non mais c'est drôle, en fait.
Non, mais si, c'est...
Parce que je me dis que il y a des gens... Ils mangent pour vomir et d'autres ils mangent pas pour. Moi je trouve ça pas du tout normal.
C'est... Bah non, mais si, c'est une maladie.
Enfin, c'est... non mais c'est le fait.
Coup, pas
pour
du
moi
du
pour moi c'est.
Pas mangé, hein.
Mais non mais même c'est pas ça le truc, c'est que je sais pas, tu peux pas être genre toi-même et te différencier des autres. Non toi tu.
Généralement quand tu fais ça c'est que tu peux être toi-même.
Ouais mais même. C'est que dans ta tête, t'es un mouton en fait, et c'est pas possible.
Non, pas forcément.
Bah non, c'est que tu as une souffrance.
C'est que t'as une souffrance.
L'anorexie, la boulimie, oui. C'est vraiment en lien avec. Alors, ça.
C'est un type de scarification, mais par la nourriture, c'est ça ?
Voilà, à peu près. Il y a ce côté-là au niveau de la boulimie. C'est ce qui se rapproche, je dirais, un peu plus de ça. L'anorexie, c'est vraiment quelque chose où on n'est pas bien. Et on se dit pas au départ, je veux être maigre. C'est vraiment, je suis pas bien, je suis pas belle ou je suis pas bien dans mon corps, je vais changer mon corps pour être mieux. Et on entre dans un système d'anorexie. Il peut y avoir des problèmes liés à la famille, il peut y avoir des problèmes liés au relationnel avec les amis. Souvent, il y a quand même une base de troubles anxieux, d'angoisse avant de rentrer dans la boulimie. Dans l'anorexie aussi, d'ailleurs. Plutôt. Voilà, c'est vraiment. C'est pas qu'on veut être comme les autres. Alors, on peut rentrer dans l'anorexie par un régime en disant bah, je veux ressembler à une fille de magazine, ça arrive, mais c'est pas le plus fréquent. Parce que voilà, après, quand on dit je veux perdre du poids et ressembler à aux filles de magazine, par exemple, quoi, on rentre dans un régime excessif, on peut rentrer dans une anorexie, mais qui ne sera pas considérée forcément comme une anorexie mentale, parce que derrière, il n'y a pas de troubles anxieux, d'angoisse, éventuellement de dépression, donc ça peut être traité différemment.
Je comprends.
Est-ce que vous avez des questions sur les différents troubles encore ou pas ?
C'est quand qu'on mange.
Quand qu'on mange ? Eh ben à la cantine.
Non.
Non, j'ai pas de. Alexandre. Non. Pas de questions ? Oh, pour une fois qu'il n'y a pas de questions.
Wow.
Ben le problème c'est que je perds trop la parole en fait. Rattrape-la,
cours après.
Je peux jamais m'engager.
Cours. Il faut s'engager.
Bon, d'accord. Alors,
il faut s'engager.
Alors, une contradiction si tu veux.
Ouais.
C'est que toi, tu dis, ouais, mais c'est pas normal de manger pour vomir, mais à la Rome antique, et ben c'est un philosophe qui dit.
Mais manger, ça, c'est différent.
Manger pour vomir et vomir pour manger. Et ça, c'était avec les nobles et l'empereur.
Oui, parce que voilà. C'était
une société différente de la nôtre.
C'est comme la monarchie, il y avait aussi le timpal, il fallait être plus voilà. T'étais blanc, mais c'était.
À l'époque, c'était plus tu mangeais, plus c'était une marque de richesse. Donc c'était. Du coup, il fallait que tu te fasses vomir.
Pour ne pas manquer de respect au chef d'état.
En plus, tu mangeais couché, donc c'était pas net.
Exactement.
Donc, ça va le faire.
La digestion, c'est pas terrible.
Tu prends les kilos, mais que à droite ou à gauche.
Alors. Question. Réponse. Si vous avez par exemple un ami qui présente des troubles Alors, on va dire... Qui vous inquiète parce que vous avez une copine qui mange pas. À partir de quand il faut s'inquiéter?
Alors, c'est très simple. Moi, j'ai le truc.
Ouais, vas-y.
D'autres tartes dans sa gueule, lui fais manger.
À partir de quand il faut s'inquiéter?
Ah, à partir de quand? Au moment, elle mange plus.
Il faut manger. Une fois, elle va pas manger.
Si elle fait pas l'apéro, on mange.
Une fois, elle va pas manger, donc tu vas lui dire...
Non, si elle commence vraiment à sauter les repas, quoi.
Ouais.
Peut-être pas faim.
À sauter les repas, être vraiment pas bien.
Je vais lui dire, bon, il faut quand même aller manger, tout ça.
Moi, j'ai toujours forcé.
Je vais quand même essayer d'inviter. Insister plutôt, pas inviter. Insister. Oui, aussi.
On va l'inviter et tout.
Aussi inviter à manger, oui, aussi. Pourquoi pas.
Alors, il y a aussi un truc qui rentre en compte, c'est que l'anorexie va mettre en place des systèmes d'éviction ou de super alibi pour pas manger. Donc, c'est super crédible.
Ouais, non, mais ça va pas le faire. Non, mais ça va pas le faire en fait.
Non, une fois, ça va. Deux fois, je trouve que c'est bizarre.
Non, mais quoi.
Non, je vais essayer quand même de la forcer. De se tenir avec moi. Au pire, je lui donne du pain.
Elle mange du pain. Elle mange du pain.
Et si c'est vraiment ça continue, là, je poserai. Mais j'irai quand même. Au bout de trois fois, c'est vrai que j'essaierai d'alerter ou de discuter avec elle pourquoi.
Oui, voilà. Non, il va falloir des discussions aussi sur le comportement et aussi.
Voilà, il faut voir, donc, avec l'anorexie, il faut voir s'il y a un changement de comportement avec. C'est plutôt sur quelques semaines. Il faut voir une globalité parce que on peut être malade, on peut traverser une phase où on n'est pas bien. Donc, si en plus de ça, il y a un surinvestissement du sport, qu'il y a toujours une excuse pour quelque chose, une technique d'évitement pour aller au repas, là, effectivement, il faut commencer à s'inquiéter. D'accord. Si quelqu'un, par exemple, se met à consommer de l'alcool, du cannabis, éventuellement se scarifie, à partir de quand vous vous inquiétez?
En fait, dès qu'il y a les premières traces, quoi.
Alors, s'il y a une trace de scarification?
Oui, c'est...
Si tu vois
après,
une trace de scarification,
après,
ouais.
Il y a plusieurs sur la trace. Voilà, on va parler en mode codé, ça va aller plus vite. La trace, si on voit que c'est vraiment un accro à quelque chose, genre imaginons, voilà, je suis tombé, je me suis chopé sur une branche ou un truc comme ça, et on voit vraiment que c'est ça, ok. On va poser la question, pourquoi t'as ça? Surtout l'endroit où c'est, on va poser la question. Après, si c'est vraiment une trace nette, mesurée, répétée, à un endroit bien défini, ok, je vais m'inquiéter, je vais surveiller la personne et je vais essayer de parler avec et de comprendre le pourquoi du comment dans son comportement.
Et c'est vous qui allez régler la situation?
Non, ben non. De tarte dans sa gueule et après on finit et c'est fini.
On finit à l'hôpital, comme ça c'est réglé.
Voilà, ok, c'était pas simple et efficace.
Déjà, essayer d'avoir une approche avec elle pour savoir ce qu'elle a. C'est rien, du coup, c'est pas d'aller voir les sites.
Et si elle dit non, ça va?
C'est là où ça va pas.
C'est là que ça va pas, donc c'est là où on va essayer de plus insister pour savoir ce qu'il y a.
Et elle va te dire, tu me gonfles, tu me dégages.
C'est à ce moment-là où il va falloir commencer à.
Après, il y a le deuxième hack.
À faire inspecteur gadget.
Les qualifications vont être plus intenses. C'est peut-être en lui posant des questions pour savoir, peut-être qu'on lui a le couteau dans la plaie,
bah ouais.
Du coup, ça fait encore plus.
Donc quand vous êtes inquiet, vous faites quoi en fait?
Ben on va se soucier de la personne.
Ouais, mais c'est quoi du coup?
C'est lui apporter de l'attention.
Ouais.
Après, on peut pas.
Si on voit qu'il y a un rejet, c'est aller voir, demander de l'aide.
Vous n'êtes pas des Zorro, d'accord?
Non,
c'est pas à vous de porter. Voilà.
On lui fait une trace.
Non, mais parce que ne vous sentez pas obligé de.
Non, on peut pas.
Vous êtes inquiet.
Mais on peut informer des personnes.
C'est à ce moment-là, tout le monde est inquiet d'informer des personnes.
Oui, c'est essayer de savoir ce qui se passe.
Vous lui avez parlé une fois, deux fois.
Après, si
vous avez quand même l'impression que ça va pas, bah, c'est le moment d'en parler.
Si elle veut pas, d'accord. Là, c'est vraiment un gros problème.
Voilà, il faut pas que vous vous sentiez aussi coupable si à un moment vous vous dites j'ai parlé à quelqu'un, je l'ai pas empêché de se scarifier ou de faire une tentative de suicide parce que j'en ai pas parlé à un adulte. D'accord. Donc, l'important c'est pour vous aussi de vous protéger.
Dans tous les cas, il faut être altruiste.
Quand on voit quelqu'un et qu'on est inquiet pour cette personne, il faut pas qu'on le garde pour soi parce que ça peut faire effet de ricochet. Donc c'est tout l'intérêt d'en parler. Il y a des parents, donc des fois, il faut inciter la personne à en parler à ses parents, parce que malgré tout, les parents, la plupart du temps, c'est pas mal. c'est pas trop, ça sert un peu.
Voilà, ça sert quoi.
C'est... Après, ça dépend. Si,
si c'est à cause des parents le problème, et ben voilà, il y a des adultes dans l'établissement, il y a les psys. Les psys, c'est pas pour les fous. Et puis même si on est un peu fou, c'est pas grave, ça soigne. Hein, voilà, c'est une maladie. Plus on est tout, plus on rit.
Oui, c'est drôle.
Et ce qui est important, c'est de voir
la drôle quand même.
D'accord. Les troubles psychiatriques, il faut vraiment qu'il y ait une notion de durée. En général, c'est 6 mois de plusieurs signes ou symptômes qu'on peut établir un diagnostic.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que si par exemple, alors après c'est fait avec le psychiatre, mais si les signes apparaissent à un moment que vous avez remarqué quelque chose, mais qu'elle dit non mais j'ai juste fait ça hier et que possiblement elle a fait ça une fois, c'est la répétition qui fait le trouble psychiatrique, hein, et la durée dans le temps. Donc voilà, des fois il y en a qui testent parce qu'ils ont vu voilà, quelque chose, un film, j'en sais rien. C'est pas forcément un trouble psychiatrique, c'est la durée et le temps. D'accord ?
Okay.
Et la répétition.
Et ça va mener en quoi de. Genre l'aboutissement de ce trouble en fait, ça va amener à quoi ?
C'est-à-dire ?
Genre, c'est-à-dire, imaginons, voilà, il y a une personne, ça fait un certain temps qu'elle fait ça.
Ouais.
Et que comment expliquer ça ? Ah, le micro revient ici. Genre qu'on lui trouve qu'elle a un trouble psychiatrique, ouais, ou quelque chose comme ça. Ça va amener jusqu'à quoi en fait ?
Ça va quel amener est à le, la soigner.
Merci beaucoup. Non, l'aboutissement de.
Le risque, tu veux dire ?
Oui.
Alors, bah, le risque de la dépression, c'est la tentative de suicide. Le risque de l'anorexie, c'est la mort parce qu'on mange pas assez. Le risque de la boulimie. S'il y a une perte de poids associée, c'est tout ce qui va avec la perte de poids, sinon c'est tout ce qu'on a dit au niveau des risques physiques. D'accord. La schizophrénie peut entraîner alors, des actes de paranoïa, des agressions sur les autres, des agressions sur soi-même, des destructions de l'environnement, du matériel, ce genre de choses. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aller en parler. Okay. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? C'était ça ou pas ?
Ouais, en partie. Déjà, c'est bien, c'est détaillé sur tous les autres termes. Mais ouais, en quelque sorte, ouais, on va dire ouais. Parce que c'est un peu compliqué, mais oui.
Bon, il y a aussi les addictions. Je l'ai pas mis dans les maladies psychiatriques. Les troubles addictifs, donc on tombe dans la drogue quand on est adolescent, c'est souvent associé aussi à une pathologie. Quand on a une pathologie psychiatrique quand on est jeune, souvent il y a des troubles addictifs qui vont avec. Et à l'inverse, si on a des troubles addictifs, ça peut du coup, comme je le disais, déclencher certaines pathologies.
Okay.
Et on tombe plus facilement dans l'addiction quand on est jeune. Voilà. Donc vous en parlez à vos parents, un adulte, au psychiatre, au psychologue. Si vous voulez pas voir quelqu'un au départ, il y a des sites internet, donc comme Fil Santé Jeune qui ont des chats, Drogue Info Service, la Fédération de l'Espace de Santé Jeune. Voilà, ils ont tous en général des chats si on ne veut pas se déplacer au début pour donner des conseils ou des numéros de téléphone pour appeler. Voilà.
Ok. Bah...
C'est la fin de l'émission.
Top, voilà. Ciao, au revoir. Bonne journée. Bah non, déjà, c'est, non. Ça nous a pris beaucoup de choses. Voilà, parce non. Que c'est sur deux parties. Merci beaucoup, Madame Audan.
De rien.
Voilà, de nous avoir parlé de ces sujets parce qu'ils sont un peu tabous, faut le dire.
C'est compliqué, oui.
Bah... Voilà, c'est tabou. On essaie d'en parler, mais voilà, avec qui on peut. Avec qui, comment parler, comment le résoudre, voilà tout ça, plein de questions. Merci à mon ingé, à mon tech, voilà, d'être là pour l'émission, d'être là avant d'avoir enregistré ça. Je sais que tu avais un vol à Punta Cana en ce moment, mais du coup tu l'as loupé pour nous, merci beaucoup.
Ouais, désolé.
Voilà.
Bah après, c'est pareil, le coronavirus qui tourne là-bas. Ah. Non,
pas Punta Cana encore, c'est bon.
Pas encore. Et merci à Alexandre, voilà, d'être passé dans l'émission.
De rien.
Merci. Voilà, donc n'oubliez pas.
Le podcast.
Voilà. L'habitude, quoi. Prenez l'ancienne, vous écoutez la même chose, la fin, c'est pareil. Voilà. Donc vous allez sur
Popcorn, on y revient,
Popcorn, hein. antithèseradio.fr, Instagram, voilà, tout ça, et merci beaucoup, et au revoir.